Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h. Que lui est-il permis d'espérer à la fois pour son parti et pour son camp? Croit-il que l'avenir du PS passe par cette vieille idée du socialisme municipal? Comment préserver ce qu'il reste encore de la précieuse implantation communale du PS? Et comment rêver de reconquête face à la montée des écologistes en politique? À la veille de l'examen du projet de loi sur les retraites à l'Assemblée nationale, comment s'opposer au gouvernement? En s'alliant par exemple avec la France Insoumise, beaucoup de questions à poser au premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui est donc l'invité de Questions Politiques ce dimanche. Pour intervenir, l'application mobile France Inter ou les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue l'équipe de Questions Politiques ce dimanche. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Yaël Gauze, le chef du service politique de France Inter. Bonjour Yaël.
Bonjour Ali, bonjour Olivier Faure.
Yaël qui a préparé votre portrait Olivier Faure. Nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Ça fait sourire Françoise Fressoz qui s'en délecte d'avance. Si la politique...
Je tremble aussi.
Vous n'avez pas à trembler. Ce sera juste un moment intéressant pour nous tous. À suivre dans quelques minutes. Si la politique, Olivier Faure, était aussi une question de météo, quel est selon vous le climat qu'il fait en France aujourd'hui?
Incendiaire. Le réchauffement climatique, c'est aussi un réchauffement politique. On a aujourd'hui un climat qui est absolument incroyable, une tension permanente depuis en réalité un an. Nous avons un président qui est lui-même, à la fois la cause, la conséquence, en fait, il est en permanence celui qui alimente les tensions dans ce pays. Il est le pompier pyromane.
Il est le responsable des tensions qui traversent la France aujourd'hui ?
Il est celui qui n'apaise pas ce pays. Il est celui qui, au contraire, à chaque fois, le provoque, le tend. Et non seulement à travers ses petites phrases, mais plus largement à travers les mesures qu'il prend. Pensez, depuis un an, on a eu la réforme de l'assurance chômage qui va priver une large partie de celles et ceux qui, malheureusement, tombent au chômage de leur indemnisation. Et maintenant, on a une réforme des retraites dont chacun comprend qu'elle va être une formidable régression.
Et vous allez nous dire justement comment vous comptez vous y opposer à l'Assemblée nationale. Nathalie Saint-Cricq, puis Françoise Fressoz.
Mardi, Robert Badinter, dans l'émission C'est à vous, fait une violente diatribe contre la haine, notamment en faisant référence à la tête d'Emmanuel Macron qui figurait en trophée au bout d'une pique. Est-ce que vous considérez que finalement il a raison ou qu'il exagère?
Non,
et
bien
que,
sûr.
Puisque vous dites que cette haine qui existe est uniquement imputable à la façon dont l'exécutif gouverne le pays depuis trois ans.
Olivier Faure.
La haine préexiste à Emmanuel Macron, elle n'est pas une nouveauté, mais en revanche, je dis que ce président n'apaise pas et qu'il n'est pas celui qui permet le dialogue et qui permet de nourrir en fait un dialogue avec le pays qui, au contraire, le brutalise. Et effectivement, il y a une réaction qui est extrêmement violente de la part de ce pays aussi. Mais
et vous condamnez ces violences même symboliques?
Bien sûr que je condamne ces violences même symboliques. On ne peut pas considérer que... c'est pas Louis XVI. Et donc, on ne peut pas, on est en démocratie, on est dans un état de droit, même s'il y a des choses à en dire et des critiques à porter, notamment sur la question dont est aujourd'hui maintenu l'ordre dans ce pays. Mais on ne peut évidemment pas considérer que ce soit une image tolérable que d'avoir la tête du président de la République au bout d'une pique.
Françoise Fressoz.
On a quand même vu comment s'était terminé le quinquennat de François Hollande, où le dialogue avait été assez intense et où il y avait presque une coopération entre le Parti Socialiste et la CFDT. Donc est-ce que, au fond, c'est pas l'état réel du pays qui est comme ça, c'est-à-dire un pays qui en permanence va turbuler, et quand les macronistes disent on fait les réformes que personne n'a osé faire et on œuvre, on est les seuls à œuvrer pour l'égalité réelle, qu'est-ce que vous répondez, vous ?
Olivier Faure.
C'est une blague. Enfin, en quoi est-ce que ils œuvrent pour l'égalité réelle? Pouvez-vous me dire quel est le projet aujourd'hui qu'ils portent qui permette d'asseoir cette idée qu'ils seraient là pour l'égalité réelle? Même leur système de retraite, on nous dit qu'il est universel. En quoi est-il universel? Il n'est pas universel parce qu'il y a des régimes spécifiques qui se substituent aux régimes spéciaux. Il n'est pas universel parce que les revenus au-dessus de 10 000 euros ne seront plus appelés à cotiser dans ce régime solidaire, mais à les capitaliser ailleurs. Il n'est pas universel parce que les générations qui se suivront n'auront pas le droit aux mêmes pensions et ne seront pas soumises au même âge d'équilibre.
Alors comment expliquez-vous qu'un syndicat comme la CFDT défende ce système en le en estimant, moyennant certaines avancées sociales, qu'il soit plus au fond juste que le système actuel qui était fait sur un certain nombre de rentes.
Mais vous aurez remarqué, François Fressol, que le projet actuel n'est pas le projet de la CFDT, mais le projet du gouvernement. Et quand même, il y a un bras de fer qu'entame la CFDT avec le gouvernement sur la conférence de financement dans laquelle ils ne veulent pas rentrer réellement tant qu'ils n'auront pas obtenu des avancées, notamment sur la question de la pénibilité. C'est bien la preuve que le système tel qu'il est conçu à ce stade est un système qui est profondément injuste. Comment voulez-vous parler d'égalité réelle quand vous savez que il y a une espérance de vie qui est de 13 ans différentes entre les revenus les plus aisés et les revenus les plus modestes. Quand vous avez une espérance de vie pour un éboueur ou un égouttier, tenez-vous bien, qui est de 17 ans inférieure à celle de la moyenne nationale. Comment pouvez-vous parler d'égalité réelle quand vous considérez que tous ces gens-là seront soumis au même régime? L'égalité, ça n'est pas l'égalité réelle, ça n'est pas de mettre tout le monde sous la même toise. On ne peut pas considérer les gens, quel que soit leur métier, quelle que soit leur pénibilité, de la même façon.
Justement, Olivier Faure, c'est demain que les députés commenceront en commission à examiner le texte sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous avez comme espoir au cours de ces semaines qui vont commencer à l'Assemblée nationale, d'abord en commission, ensuite avec le dépôt de dizaines de milliers d'amendements contre le texte, notamment par la France insoumise, et puis ensuite éventuellement une motion de censure? Vous avez vraiment espoir? Quel espoir, au fond, en menant cette guérilla parlementaire?
Mon premier espoir, il est très simple, c'est de permettre, dans le débat, de faire apparaître article après article les impasses, les impensées, les improvisations de ce gouvernement. Il n'a pas entendu jusqu'ici les syndicats, le mouvement social, le Conseil d'État, le Parlement. Il est en train de chercher à le contourner en faisant en sorte que ce débat soit le plus rapide possible. Mais je sais aussi qu'il y a un rendez-vous en mars. Ce rendez-vous, c'est celui des municipales. Et s'il y a bien une voix qu'il ne peut pas ne pas entendre, c'est celle des Français.
On va y venir. Yael Gauz, mais d'abord restons sur la question des retraites et de cette opposition qui s'organise au Parlement.
Et sur la guérilla parlementaire dont vous parliez, Ali, quelle est la suite? Les Insoumis, c'est clair, ces motions de censure le 17 février. Vous, c'est quoi le PS? C'est une gradation jusqu'à une motion de censure? On a du mal à comprendre ce que vous allez faire. Est-ce que vous voterez la motion de censure déposée par Jean-Luc Mélenchon?
Jean-Luc Mélenchon ne peut pas déposer sans nous de motion de censure. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pourquoi moi je ne veux pas la déposer maintenant? Parce que je veux le débat. Je ne veux pas que ce soit un débat caricatural, je veux que sur chaque article, sur chaque disposition de ce projet, nous puissions faire apparaître les impasses auxquelles nous conduit ce projet. Donc je veux le débat, je ne suis pas simplement dans un débat de
mais
principe.
Mais 19 000 amendements déposés par la France Insoumise, ça vous semble de bonne guerre, une bonne méthode de nature à permettre le débat?
Vous verrez bien que la réalité, c'est que le nombre d'amendements permet d'avoir une discussion. Et donc,
22 000 prévus.
Vous avez connu d'autres époques et vous savez très bien que le nombre d'amendements permet simplement d'avoir un temps de parole et que derrière, ça permet d'avoir un débat approfondi. Et que s'il n'y avait pas eu le mouvement social depuis plusieurs semaines, eh bien, le débat sur les retraites, nous ne l'aurions eu nulle part. Et on serait parti droit dans le mur sans se poser de questions. Là, aujourd'hui, j'observe que parce que ce débat existe dans la société, parce qu'il a été nourri par le monde syndical, par les partis politiques, eh bien aujourd'hui, il y a un vrai débat.
Mais on ne va pas se mentir, Olivier Faure, vous allez constater qu'il n'y a pas de débat au Parlement et vous voterez la motion de censure le 17 février. J'imagine que c'est ça le plan, en fait.
Moi, je souhaite que la motion de censure soit une conclusion à l'absence d'avancée dans un débat et non pas un préalable. C'est tout. Et je ne souhaite pas qu'on soude la majorité à l'entrée de ce débat et qu'on considère, une fois la motion de censure votée, que le débat est terminé. Parce que le débat, il commence et je veux l'avoir jusqu'au bout, les yeux dans les yeux avec ce gouvernement. Leur faire entendre, leur faire comprendre, et surtout faire comprendre aux Français que ce projet est un projet qui est vraiment un projet régressif et qui nous conduit à un accident industriel.
Françoise Fressoz, puis Nathalie
Sainquet. Il y a deux sujets autour de cette motion de censure. Est-ce que ça vous gêne de la signer aux côtés de la France Insoumise? Deuxième question, est-ce que ça vous gêne de la signer si Marine Le Pen s'y rallie?
Olivier Faure.
Moi, je ne signe jamais de motion de censure avec Marine Le Pen. Ça m'est déjà arrivé d'en signer avec Jean-Luc Mélenchon et avec les Républicains. On a sur l'affaire Benalla, par exemple. Ça ne me gêne en rien. C'est un outil qui permet de dire, à un moment donné, à la conclusion d'un débat, écoutez, puisque vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien compris, eh bien, nous proposons la censure. Évidemment, elle n'est pas votée parce qu'il y a une majorité parlementaire qui est là.
Et qui est toujours une majorité et qui absolue, reste majoritaire, la République en marche.
Et donc, c'est sans surprise, c'est un élément de procédure qui permet de symboliser une opposition ferme, totale, à la fin d'un débat. Mais ça ne peut pas être son entame.
Nathalie. Et pour ce qui en est aujourd'hui, votre philosophie, c'est quoi? C'est demander d'être plutôt sur la logique du retrait, comme la CGT l'a été, ou est-ce que vous considérez qu'il y a du grain à moudre, comme la CFDT le dit? C'est-à-dire qu'en gros, s'il y avait des efforts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la pénibilité, sur un certain nombre de choses, eh bien finalement, on pourrait suivre cette réforme. On comprend pas très bien, parce que la plateforme et les propositions que vous faites en face, on voit pas quelle est votre philosophie profonde. C'est retrait ou accommodement dans le bon sens.
La philosophie, elle est très simple. Qu'est-ce que nous avons proposé avec l'ensemble de la gauche et des écologistes? Nous avons proposé un projet qui permet d'améliorer le système existant, parce que c'est une évidence, il n'est pas parfait, et il est même très largement imparfait s'agissant des carrières hachées notamment, des femmes, de la pénibilité, parce que Madame Pénicaud est revenue en arrière par rapport à ce que nous avions fait dans la précédente législature, et donc nous voulons avancer. Et il y a une opportunité historique qui est celle de 2024, puisque pour la première fois de notre histoire, le fameux trou de la Sécu sera intégralement comblé. Et donc, on aura la possibilité de faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'ici. Et donc, comment est-ce qu'on peut avancer? On maintient le système actuel en l'améliorant, notamment, par exemple, sur la pénibilité, en faisant en sorte qu'on puisse reconnaître le fait que nous ne sommes pas égaux devant le travail et qu'on doit partir à des
âges différents. Sur les régimes spéciaux, vous considérez que... Vous en pensez quoi?
Sur les régimes spéciaux, il faudrait d'abord savoir de quoi on parle, parce que j'observe que le gouvernement lui-même remet en place des régimes spéciaux au fur et à mesure de la discussion.
Ça, vous le déplorez?
Non, je ne le déplore pas, parce que je considère qu'un militaire 62 ans, 64 ans, quand il va au Mali, il est plus tout à fait opérationnel. Donc, évidemment, il faut maintenir des régimes spécifiques pour des métiers qui sont aussi spécifiques. Est-ce que vous pensez qu'une infirmière à 64 ans, elle peut encore soigner? Est-ce que vous pensez qu'une aide-soignante peut encore soulever des malades qui sont plus lourds qu'elle quand elle a fini de... Enfin, quand elle est au-delà de 60 ans? Moi, je pense que non. Donc, il y a effectivement des métiers qui méritent d'être mis à part et de partir plutôt à la retraite.
Juste pour comprendre et que les choses soient très claires, vous allez mener un combat et vous avez employé le mot, et il n'est pas neutre, le mot de symbole. Vous avez présenté à l'instant les grandes lignes de votre contre-projet sur la réforme des retraites, mais est-ce qu'au fond, d'ores et déjà, vous vous dites que le mouvement social a perdu? Que de toute façon, ce texte sera voté? Il n'y a pas de doute là-dessus?
J'espère que les parlementaires de la majorité, il doit y en avoir quelques-uns qui se disent...
Non, mais répondez très simplement.
Mais je vais vous répondre très simplement. Je pense qu'il y a des parlementaires, j'espère qu'il y a des parlementaires dans la majorité qui aujourd'hui se posent des questions. Ils n'ont pas été élus simplement pour être des robots. Ils ont été élus pour représenter le peuple qui les a désignés pour cela. Et donc, être parlementaire et aujourd'hui accepter de voter une réforme les yeux bandés, parce que c'est ce qui nous est demandé. On n'en a pas le financement, on n'en a pas les conséquences, puisque les simulateurs arriveront 6 mois après le vote de la loi, nous dit le gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a des parlementaires encore qui sont dignes de leur fonction et qui considèrent qu'ils n'ont pas les éléments pour voter, et donc peut-être que les choses peuvent bouger? Et si elles ne bougent pas au Parlement, eh bien j'espère que dans les urnes, les Français seront suffisamment clairs pour exprimer, vis-à-vis de ce gouvernement, leur ras-le-bol, et que le gouvernement sera obligé effectivement de lâcher.
On va y venir au municipal, mais d'abord Françoise Fressoze.
Dans votre contre-projet, vous excluez absolument toute mesure d'âge. Vous avez quand même fait partie d'une majorité qui a augmenté la durée de cotisation.
Oui,
pourquoi est-ce que c'est pas dogmatique au fond de vous interdire d'agir sur cet élément à l'avenir, sachant que on a quand même dans tous les pays la tendance à allonger la durée du travail, notamment parce que l'espérance de vie augmente? Pourquoi est-ce que vous mettez cette barrière absolue?
D'abord, faites attention aux moyennes, parce que l'espérance de vie, elle n'est pas la même pour tout le monde.
Oui, mais on peut
l'espérance
après
de vie
moduler.
En bonne santé, elle est à 62 ans et demi. L'espérance de vie en bonne santé est la moyenne. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont déjà très affaiblis quand ils arrivent à l'âge de la retraite. Et donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des métiers pour lesquels, effectivement, on peut considérer que partir plus tard n'est pas un problème. Mais il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est une vraie difficulté. Et donc, si nous avons, nous, allongé à 43 annuités l'âge de départ à la retraite, c'était en échange d'un départ plus précoce pour les carrières longues, 60 ans, et plus précoce aussi pour les métiers pénibles, avec le compte pénibilité. C'était l'équilibre qui avait été trouvé, et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, il n'y avait pas eu de contestation, ni dans la rue, ni nulle part. Parce qu'il y avait un projet juste. Et aujourd'hui, pourquoi nous ne demandons pas de mesure d'âge? Parce que tout simplement, il n'y en a pas besoin. Et que l'objectif dans la vie, c'est pas spécialement de considérer qu'à chaque fois qu'on gagne en espérance de vie, il faille le rattraper sur le moment où enfin les gens peuvent exister en dehors du travail. Parce que pour vous, pour moi, le travail, c'est finalement... Peut-être qu'on existe par notre travail, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est après le travail qu'ils commencent à exister. Et donc, à ces gens-là aussi, il faudrait commencer à penser.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste, le député Olivier Faure, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Questions Politiques.
Midi 20, votre portrait, Olivier Faure, signé Yael Gauz.
Olivier Faure, vous avez 16 ans quand vous vous encartez au PS, mais votre passion d'ado... Et ça l'est toujours, c'est la BD. Et si c'était à refaire, c'est le dessin à l'école d'Angoulême et pas le droit à Orléans que vous auriez étudié. Angoulême, son festival, vous y étiez pas plus tard que jeudi dernier. La politique, ses éléphants, vous les croquez dans des petits carnets. Apparatchik discret, vous êtes toujours aux premières loges, dans les cabinets d'Aubry, Hollande, Hérault. Et toutes ces planches donneront un album en 2007. Dessiner, c'est bien. Avoir un dessin pour la gauche, c'est autre chose. Et le plus dur commence pour vous en mars 2018. Quand vous êtes premier secrétaire du PS.
La moitié de vos amis sont partis avec Macron. Voilà.
C'est à moi qui suis resté.
Soyez prudent, parce que si vous soyez dans l'opposition, ferme, ferme.
Mais c'est le cas.
Et c'est le cas. Moi, je suis resté au PS, vous répondez Olivier Faure dans la rue, alors que sifflé, exfiltré, en mars, avril et mai 2018, vous êtes obligé de quitter les manifs de cheminots et de fonctionnaires. On est en janvier 2019 ensuite. Et là, tome 2, vous tuez le père.
Le contrat passé avec les Français avait pour mot d'ordre le changement, c'est maintenant. Le changement renvoyait à une ambition trop floue et trop large. Les impasses ont pesé et alimenter la rupture.
L'inventaire blesse François Hollande, mais permet d'éviter la déroute. Olivier Faure, vous en appelez à un non-socialiste, Raphaël Glucksmann, pour sauver les socialistes. Tome 3, ric-rac, mais ça passe.
C'est un score qui surprend parce qu'il est au-delà des enquêtes d'opinion, mais il est en deçà de ce qu'il nous faut faire. Mmh. On est sur un chemin qui est celui de la reconstruction, mais on n'y est pas encore, donc il faut travailler.
27 mai 2019 sur France Inter, 6,19%, deux fois moins que les écolos, ça rend modeste. Et il n'y a plus grand monde pour vous écouter présenter vos vœux à Ivry, nouveau siège du PS, le 21 janvier dernier. Tome 4, le dépassement.
Nous ne serons plus jamais les notaires de nos intérêts partisans face au tandem Macron-Le Pen. C'est bien de cela qu'il s'agira. Ouvrir une perspective.
Et dépasser le PS pour unifier la gauche, à moins que le PS ne le soit déjà dépassé, doublé même par Ségolène Royal, déjà candidate, par un Hollande qui ne renonce jamais. L'histoire sans fin, ça ferait une bonne suite à votre BD de 2007 qui s'appelait « Ségo, François, papa et moi ». Et vous, Olivier Faure, à part un prix dans 2 ans au Festival d'Angoulême, que briguez-vous? Si Jules était dans ce studio, il dessinerait le rictus que vous venez de faire.
Olivier Faure.
Bon, c'est un portrait sympathique, hein, mais oui, effectivement, ce que j'essaye de faire depuis un an et demi que je suis premier secrétaire, c'est de réconcilier les Français avec la gauche socialiste. Et j'essaye par ailleurs de constituer ce troisième pilier de la vie démocratique. Il y a un pilier qui est nationaliste avec Marine Le Pen, un bloc libéral autour d'Emmanuel Macron, et donc il faut maintenant un bloc social, écologique, démocratique.
Au printemps 2018, on vous sifflait dans les manifs. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous y avez votre place?
Je n'ai pas reçu de nouveaux sifflets, mais je comprends que certains aient pu me confondre avec d'autres, à d'autres époques. Et maintenant, je crois que
avec
les choses sont claires. Ben, ils ont dû me confondre avec des gens qui
défendaient... Les sociotraîtres, comme on les appelle parfois, ou comme on les appelait parfois.
L'extrait que vous avez passé à l'instant, c'était un manifestant qui est venu m'interpeller en m'insultant et en me disant que j'étais effectivement un traître. Et je lui répondais, mais pourquoi me parlez-vous comme ça, puisque moi, je suis justement resté. Je ne suis pas parti avec Emmanuel Macron et je n'ai aucune intention de le faire. Donc je crois que maintenant les gens ont compris qu'il y a des gens qui ont fait leur outing libéral et sont partis avec Emmanuel Macron, et puis il y a ceux qui sont restés parce qu'ils ont des convictions solidement ancrées, ce sont les miennes.
En revanche, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est comment en est-on arrivé à cette situation où on ne voit pas l'émergence d'une vraie force de gauche puissante dans le pays, puisqu'il y a un espace politique gigantesque, en l'occurrence entre Emmanuel Macron aujourd'hui et la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon? Bon, c'est une situation qui est étonnante, pour le moins, alors qu'on est en plein mouvement social, Olivier Faure.
Vous avez raison, parce que, tout simplement, pour l'instant, la gauche est beaucoup trop divisée. Et socialistes et écologistes continuent, malheureusement, trop souvent encore à s'affronter. Et ce que je porte comme projet, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'hybrider les uns les autres. Quels sont les grands enjeux
s'hybrider
du siècle ? Oui,
hybride. Se mélanger ?
Se mélanger, oui, effectivement, arriver à faire en sorte qu'aujourd'hui, ces deux cultures-là s'hybrident, qu'elles puissent partager un destin commun, parce que quels sont les grands enjeux du siècle qui s'ouvre? Ils sont à la fois sur le terrain social liés aux grandes mutations du travail et sur le terrain environnemental, c'est notamment le combat contre le réchauffement climatique. Et ces deux combats-là se complètent, ils ne s'opposent pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer en permanence à la fois aux miens et aux Français qui nous écoutent. C'est que ce sont à la fois les mêmes victimes de la malbouffe, de la pollution, de l'exposition aux matières chimiques, du climat. Et puis, ce sont ces mêmes prédateurs qui sont ceux qui, aujourd'hui, sont les prédateurs de l'homme et de la nature.
Oui. Et pourtant, ils ne veulent pas, souvent, se mélanger avec vous. Oui. On va justement exprimer cette question.
C'est de moins en moins vrai. J'observe que, aux élections municipales, vous verrez, il y a un certain nombre de villes où les choses sont déjà faites, dans les villes de moins de 100 000 habitants, dans les villes de plus de 100 000, il y a des débats encore de premier tour.
Alors, plus vite pour la musique. On va y venir. La question des alliances, des discussions.
Dans votre hybridation, pour continuer, on a l'impression qu'il y a un caractère dominant en ce moment, et un récessif, et que le dominant, ça serait plutôt les écologistes. Vous êtes un peu en train de perdre pied et que finalement la gauche serait plus trop le sujet et que maintenant c'est la force écologique qui monte. Comment est-ce que vous défendez votre parti par rapport à ça? Ou alors est-ce que vous prenez acte du fait que maintenant la composante de gauche, ça sera plutôt l'écologie et vous derrière?
Olivier
Faure. Non,
et
non,
devant.
Non, non. En fait, le dépassement, ce n'est pas l'effacement. Je m'explique. La question écologique est devenue une question centrale, c'est une évidence. Et tout le monde est obligé d'en tenir compte. Mais la gauche, l'écologie sans la gauche, c'est un conservatisme, un néoconservatisme, point.
Je comprends pas.
C'est-à-dire, j'ai pas compris non plus.
C'est simple.
En fait, l'écologie, les verts, ce sont des conservateurs.
L'ordre naturel, je dis simplement que l'ordre naturel n'est pas un ordre progressiste. La nature elle-même ne dit rien sur les services publics, ne dit rien sur la santé, ne dit rien sur l'égalité, ne dit rien sur toutes les conquêtes qui sont celles depuis les Lumières.
ELV a un discours social aussi depuis longtemps.
Je ne parle pas d'ELV, je parle de l'écologie. Vous me demandez si la question environnementale va dominer tout le reste. Non, elle ne peut pas dominer tout le reste.
Non, je vous demande simplement si les écologistes ne sont pas en train de grimper partout, y compris au municipal, et qu'un jour ça soit la deuxième force ou la troisième de gauche, et que vous fassiez tendre.
Il n'y aura aucune victoire pour quiconque, les uns contre les autres. La réalité électorale, elle est celle-là. Et si vous voulez constituer...
S'ils gagnent Rouen...
Mais c'est pas parce qu'ils gagnent une ville...
Non mais Rouen, je peux en citer d'autres.
Moi, je peux vous citer Paris, je peux vous citer Nantes, je peux vous citer Rennes, je peux vous citer Clermont-Ferrand, je peux vous citer beaucoup de villes. Ouais. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est assez intelligent à un moment donné pour se dire qu'il y a une force qui doit se constituer et qui doit être plus homogène qu'elle ne l'est aujourd'hui, pour pouvoir être la force qui brise le duo que sont aujourd'hui, quel est le duo aujourd'hui, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut être condamné à chaque fois, aller au deuxième tour, voter pour les uns contre les autres? Moi, je pense qu'à un moment donné, l'intelligence doit triompher.
Françoise Fassoz.
Soyons un peu plus concrets. Donc, il va y avoir les élections municipales. Vous espérez conserver un certain nombre de villes. Les écologistes espèrent en conquérir un certain nombre. Est-ce qu'au lendemain des municipales, on peut imaginer que vous soyez à l'initiative d'un appel, d'une refondation de la gauche? Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Parce qu'on est quand même à mi-quinquennat et que si vous voulez avoir des objectifs pour la présidentielle, il faut se mettre en ordre assez vite. C'est quoi le scénario que vous avez en tête?
Olivier Faure.
Pour moi, le scénario, il est simple. C'est que nous avons progressé lentement et qu'il va falloir une accélération au lendemain des municipales. Parce que le lendemain des municipales...
Quand avez-vous progressé?
Il y a un an et demi, quand j'appelais à une gauche des combats communs, il y avait le silence pour me répondre. Un an et demi plus tard, nous avons d'abord été ensemble sur ADP, puis nous avons été ensemble sur les retraites. Maintenant, nous sommes ensemble sur les municipales. Et donc, nous avançons trop lentement à mon goût, mais nous avançons. Et donc, je dis simplement qu'au lendemain des municipales, il faudra une accélération. Parce
Vous faites un congrès, un grand appel.
Si nous ne sommes pas capables de nous unir plus que nous ne le sommes aujourd'hui. Alors, nous irons faire la campagne de Xavier Bertrand au deuxième tour dans les Hauts-de-France et celle de Renaud Muselier en PACA au deuxième tour des élections régionales. Est-ce que c'est vraiment ce que nous avons envie de faire? Ou est-ce que nous avons envie, à un moment donné, de faire la preuve, la démonstration, à la fois pour nos régions, demain pour notre pays, et plus largement pour l'Union européenne? Est-ce qu'on a envie de montrer qu'il existe une autre voie, un autre chemin? Et ce chemin n'est pas celui du libéralisme, il n'est pas celui du populisme.
Mais les dernières municipales, Olivier Faure, étaient déjà une catastrophe sans précédent pour le Parti Socialiste. Vous avez perdu un très grand nombre de villes, alors il reste évidemment des symboles extrêmement puissants comme celui de Paris. Mais c'était déjà une catastrophe. Qu'est-ce qui peut vous permettre d'espérer que, au cours des prochaines élections municipales, au mois de mars, donc très bientôt, il n'en sera pas de même?
Mais regardez ce qui se passe et regardez la façon dont les choses se composent sur le territoire. Si on en croit simplement les sondages, moi ce que j'observe, c'est que partout où nos maires sortants sont candidats, ils se tiennent bien parce qu'ils sont reconnus dans ce qu'ils ont fait.
Mais pas partout forcément nous sommes sous l'étiquette socialiste. Vous le
partout
reconnaissez
où nous sommes en situation de conquête, j'y reviendrai. Nous sommes en situation de conquête. Il y a des cas. Je prends l'exemple de Nancy, où c'est un socialiste qui est en mesure de l'emporter. Il y a d'autres endroits où nous avons fait le choix nous-mêmes de participer à un rassemblement large, autour d'écologistes, de communistes, qui permettra demain de gagner. Et donc, ça me permet d'arriver à quelle conclusion? L'union permet la victoire. Et toutes les occasions manquées, vous l'observerez au soir du deuxième tour, toutes les occasions manquées, parce que malheureusement, il y en aura vraisemblablement. Elles sont liées à la division. C'est ce qu'il nous faut comprendre les uns et les autres. C'est quand même assez simple. C'est quand même ce que nous disent à peu près tous les gens que nous rencontrons tous les jours de la semaine. Et je ne rencontre que des électeurs, des électrices qui se disent « Je n'en peux plus d'avoir à choisir entre vous. »
Donc vous êtes plutôt Jules Guedes que Jean Jaurès en l'occurrence. Vous êtes plutôt comme il y a 120 ans à Tours, quand on discutait déjà de la possibilité de s'allier avec d'autres et de s'implanter localement.
Tours, on s'est divisé, en
l'occurrence. Vous êtes d'accord, mais Olivier Faure, aujourd'hui, sur la ligne guédiste, qu'il faut créer des alliances et peut-être même avec des membres de l'aile de gauche de la République En Marche pour mais conserver des villes ou en conquérir.
Puisque vous convoquez l'histoire, moi je vais vous dire ce que je suis et de quoi je me rapproche. Il y a effectivement un siècle, le mouvement ouvrier était extrêmement divisé. Il y avait Jules Guedes d'un côté, Jean Jaurès de l'autre, Vaillant et beaucoup d'autres. Et qui avaient des différends, qui étaient des différends profonds sur la République, sur la démocratie, sur la Révolution, sur le socialisme, sa nature même. Eh bien, au congrès du Globe, qui portait bien son nom et qui serait assez inspirant pour nous aujourd'hui, dans ce congrès du Globe en 1905, ces gens-là, qui ne sont pas des copains, qui ne partent pas en vacances ensemble, ils disent, eh ben, on va se retrouver. Ils se retrouvent et un siècle après, on leur doit tant et tant de conquêtes.
Oula,
eh bien, ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous avons exactement le même défi qui nous est posé. Est-ce qu'on est capable de faire, à un moment donné, ce pas-là, de réunir des gens qui ne sont pas si différents en réalité, qui ont des points de vue, des sensibilités qui doivent dialoguer et permettre d'avancer ensemble pour permettre de construire un autre chemin social, écologique, démocratique?
C'est l'après 22 mars que vous rêvez. Vous dites « hybridons-nous ». Et Yannick Jadot, par exemple, il dit « recentrons-nous ». C'est un peu la réponse qu'il fait aux socialistes en ce moment, en prenant une alliance d'ailleurs nouvelle, une coalition climat à Paris, qui n'est pas du tout compatible, en tout cas au premier tour aujourd'hui, avec Anne Hidalgo. Comment vous expliquez ça, que vous dites « hybridons-nous » et Yannick Jadot, qui sera peut-être le candidat des écolos en 2022 à la présidentielle, vous dit « non, cherchons d'autres alliances et recentrons-nous ».
Olivier Faure.
Je ne sais pas si c'est ce que vraiment dit Yannick Jadot. Parce
un petit peu aujourd'hui quand même.
Il dit qu'il ne veut pas d'alliance à l'extrême droite, pas à droite, pas à La République En Marche. Bon, je vous laisse faire la soustraction et vous verrez que, en réalité, même s'il ne le dit pas avec les mêmes mots que moi, il n'est pas si loin de ce que je dis. Bon, après, comment est-ce qu'on avance? Est-ce que vous pensez que si Yannick Jadot est candidat des écologistes, et qui est un candidat socialiste, un candidat des générations, un candidat insoumis, un candidat du NPA,
plus Ségolène Royal,
plus d'autres. Est-ce que vous pensez sérieusement que nous aurons un deuxième tour qui opposera quelqu'un ou à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen? Non, on aura une gauche qui aura montré une fois de plus qu'elle est incapable d'être au rendez-vous. Et donc, nous serons laminés. Et donc, nous vivrons dans une démocratie qui, progressivement, sera une démocratie à l'israélienne, où vous n'aurez plus de gauche, vous aurez une droite qui fera face à l'extrême droite et qui se battra.
Enfin, on est loin d'un système à la proportionnelle intégrale comme en Israël, et il n'y a pas en Israël l'élection d'un président de la République au suffrage universel comme en France.
Prenez l'exemple américain, si vous voulez. L'exemple américain qui n'est pas l'exemple israélien, ils n'ont pas la proportionnelle. Et vous avez des démocrates qui sont des libéraux vaguement sociaux qui s'opposent à des trumpistes qui sont des populistes vaguement républicains.
Pour parler du fond, ce que vous aimez bien en général, plutôt que parler d'incarnation ou de personnalité, mais ça va venir... Vous parlez de votre arc politique en disant qu'il faut se rassembler pour ne pas être laminé. Est-ce que vous avez, de Fabien Roussel à Jean-Luc Mélenchon, en passant par les écoles, c'est quoi l'arc politique? Ça va d'où à où?
Olivier Faure.
Qu'est-ce que vous avez de commun avec Jean-Luc Mélenchon?
Moi,
en
je
clair
ne pose pas d'excuses.
Est-ce que vous n'êtes pas plus simple, plus près d'un Jean-Yves Le Drian, d'un Olivier Dussopt qui sont réunis sur cette espèce de courant de gauche de Macron?
Il lance une aile gauche de la majorité.
Non, mais les alcooliques anonymes.
Territoire de progrès, c'est le nom de l'association.
Les alcooliques anonymes, c'est comme ça que vous appelez l'alliance que lance Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt.
Après la gueule de bois, oui, ça me donne le sentiment d'alcoolique anonyme.
Est-ce que les deux ministres, vous dites, les deux ministres qui ont participé à ça hier, c'était un club d'alcoolique anonyme?
Bah, écoutez, ça donne ce sentiment, oui, ça donne ce sentiment d'être confronté à un club d'alcoolique anonyme qui, au petit matin, se retrouve après la gueule de bois et se disent, bonjour, je m'appelle Jean, et voilà, j'ai découvert que j'avais trahi la gauche et c'est pas facile.
Il y en a d'autres qui sont alcooliques anonymes aussi qui se réveillent difficilement. Ma question, c'est l'arc politique.
Il y a beaucoup de maires socialistes dedans.
Vous allez d'où? À où?
Ex-maire, puisqu'il s'en va, il arrête.
Vous allez d'où à où? Votre coalition?
Moi, je ne pose pas d'excuses. Je dis simplement qu'il faut, à un moment donné, construire cet arc qui doit être social, écologique, démocratique. Ça doit
être... Olivier Faure, vous nous dites hors de question de s'allier avec La République En Marche, où que ce soit et quelles que soient les circonstances.
Si demain, il y a des gens qui considèrent que La République En Marche est un chemin qui les a menés à une impasse et qu'ils veulent revenir et constituer ce pôle-là, je vois que il y a...
Ah donc vous êtes vraiment ouvert au mélange, à l'hybridation très très large.
Je vois qu'il y a aujourd'hui une hémorragie côté Macron avec des gens qui se demandent ce qu'ils font dans ce groupe. Eh bien, je leur dis effectivement, si vous voulez constituer, si vous êtes sincère, si vous avez véritablement envie de constituer ce pôle-là,
venez-vous mélanger.
Ça, c'est des repentis. Je vous pose la question sur la France insoumise et sur le Parti communiste. Est-ce que vous pensez la même chose
sur les retraites? Moi, sur les retraites, il n'y avait pas d'exclusive. Ils sont venus une partie des insoumis, Clémentine Autain, et puis ceux qui appartiennent à l'aile moréliste de la France Insoumise, qui sont venus avec Caroline Fiat dans ce regroupement, dans cet intergroupe pour bâtir un contre-projet sur les retraites. Et donc voilà, c'est ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas font ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je dis, c'est que la seule façon de bâtir quelque chose qui permette enfin de ne pas dérouler le tapis rouge sous les pieds de Macron et de Le Pen, c'est de constituer cet arc. Parce que moi, je veux bien être le plus radical de la Terre. Il y a des gens qui en ont fait même une quasi-profession. La radicalité, c'est sympathique, mais ça ne permet d'aller nulle part.
Vous parlez de qui, là?
Mais il y a des gens qui font sur tous les sujets de la surenchère, qui sont toujours plus à gauche, plus ceci, plus cela, etc.
Vous dites va vers Marine Le Pen?
François Spessoza.
Au bout du compte, ça ouvre un tapis rouge sous les pas de ce duo qu'on connaît bien et qui a besoin justement d'une gauche archi-divisée, qui a besoin d'une gauche qui n'est plus en mesure d'être dans le combat de second tour pour pouvoir justement se maintenir les uns face aux autres et donc effacer progressivement tous ceux qui ont construit le modèle social français et qui sont ces forces-là, communistes, socialistes, syndicalistes, écologistes, c'est nous qui sommes à l'origine de ce modèle français. Et donc c'est nous qui devons maintenant être dans les premières de son évolution.
Françoise.
Vous dites on doit être la troisième voie entre les libéraux et les nationaux. Quelle est l'analyse de la société française? Est-ce que vous adhérez à cette analyse, au fond, d'un groupe populaire face à un groupe élitiste et qui peut amener à quelque chose d'assez violent à la prochaine présidentielle? Est-ce que votre cible, c'est récupérer de l'électorat populaire? Comment vous voyez la construction de la société aujourd'hui?
Alors, deux choses différentes. L'objectif, c'est de rassembler à nouveau un électorat populaire? La réponse est oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter l'idée d'un clivage qui oppose le peuple aux élites? La réponse est non. Et pourquoi? Parce que, y compris notre propre histoire, celle de la gauche, celle de la Révolution française, celle des Lumières, ça n'est pas l'opposition entre le peuple et les élites, c'est le rassemblement entre une part des élites qui ont fait le choix de, justement, lutter contre les inégalités, de se battre pour l'émancipation collective, de se battre pour l'égalité humaine. Et ça, c'est pas le fait d'une catégorie sociale, c'est le fait de ceux qui
mais
croient à des valeurs communes.
Mais ça a été le projet du Parti Socialiste pendant des années, et au fond, le quinquennat Hollande illustre l'échec de cette stratégie-là. Comment est-ce que vous vous réadressez à l'électorat populaire pour lui dire « on est vraiment sociaux »
Olivier Faure.
Il suffit simplement de dire à chaque étape pour qui on se bat, pourquoi on se bat et ce qu'on propose. Sur les retraites, je pense que tout le monde a compris où on était. Tout le monde a compris qu'on se battait de manière claire pour un système qui soit un système plus juste.
Mais il y a un brouillage, Olivier Faure, qui est certain, c'est qu'on a l'impression que vous abandonnez le discours profondément social-démocrate qui était en train de choisir et de suivre le Parti Socialiste. Aujourd'hui, on a du mal à vous suivre.
Je suis social-démocrate, Ali Badou.
Vous êtes social-démocrate, mais le discours écologiste est en train de prendre le pas sur le discours social comme
mais pas du tout, pas
on a l'impression
moi.
De l'entendre.
C'est pas ce que je dis. Je dis que
c'est comme si vous renonciez à une ligne sans en présenter d'alternative ou sans présenter un autre chemin de manière claire.
Je vais essayer d'être plus clair, mais ce n'est pas ce que je dis. Moi, je ne dis pas qu'il faille effacer le message centenaire des socialistes au profit du message plus tendance qui est celui des écologistes. Parce que la question climatique ne peut pas
tendance,
résumer...
C'est péjoratif.
Comment ?
Tendance, c'est péjoratif dans votre bouche ? On a l'impression que c'est comme
non,
un phénomène
pas du tout,
de mode.
Non. Ben c'est vrai que c'est à la fois plus tendance et au sens mode, mais ça n'est pas dans ma bouche péjoratif. Je suis totalement acquis à l'idée que la bataille pour le climat est une bataille essentielle et qu'elle doit générer des politiques publiques ambitieuses. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas considérer que la bataille pour le climat efface, par exemple, la lutte contre les inégalités. Ça n'aurait aucun sens. Et donc, il faut marcher sur deux pieds, un pied social, un pied écologique, et le faire dans un cadre démocratique. Voilà ce que je défends. Et donc, il n'y a pas de volonté de substitution. Il n'y a pas une idéologie de remplacement, mais il y a un complément à trouver dans l'écologie politique. Ce qui nous a manqué, il faut bien le reconnaître, parce que nous avons longtemps eu partie liée avec le productivisme, parce que nous considérions que la croissance, tout simplement, permettait de créer des richesses et donc de pouvoir les redistribuer ensuite. Cette vision-là est périmée et donc nous devons changer de modèle économique.
Yael Gauze.
L'arc dont vous parlez de manière hyper concrète, appliquons-le au municipal. Ivry-sur-Seine, c'est la commune où vous avez fait déménager Solferino pour vous remettre plus près du peuple. C'était ça l'idée aussi. Il y avait des économies dessous, mais il y avait aussi ça.
C'est là où se trouve le nouveau siège du Parti Socialiste.
Dans cette ville au municipal, vous n'avez pas de tête de liste et vous êtes allié aux insoumis. Derrière une écologiste, si je ne me trompe pas. C'est ça le nouvel arc, il est là dedans. Le PS n'a même pas de candidat dans la ville où il siège.
Olivier Faure.
Je ne suis pas sûr de saisir vraiment le sens de la question.
C'est
le lieu du siège. Oui, alors sur l'arc, je veux bien vous répondre, sur le lieu du siège et sur la tête de liste.
Non, mais la politique, c'est aussi une affaire de symboles. Et la question que pose Yael, c'est vrai, elle vous renvoie quand même à une situation assez vertigineuse.
Vertigineuse, non. Elle nous renvoie à ce que je construis, à ce que je cherche à construire. Je sais bien que, parce que vous interpellez le chef du Parti Socialiste, vous voulez le renvoyer à l'idée d'un parti étroit et donc faire en sorte
que... Ah non, c'est responsabilité
question,
de chef.
Oui, à la question, ben justement...
Dans la ville où il siège, dans la ville où il siège, l'UPS
de chef,
est derrière les insoumis.
Ça n'est pas derrière une écologiste, en l'occurrence.
Allié aux insoumis.
Derrière une écologiste, allié aux insoumis. Donc voilà ce qui est la réalité de cet arc. Mais ce que je vous dis... C'est que moi, ce que je souhaite, ça n'est pas être simplement le comptable étroit d'un parti, mais être responsable de l'émergence d'un bloc qui soit social, écologique, démocratique. Ça veut dire que ma responsabilité, ça n'est pas simplement de dire à chaque fois « je veux, moi, être devant », etc. C'est qu'à chaque fois que c'est un écologiste qui peut l'emporter, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Perpignan, c'est le cas à Besançon, ben nous avons fait le choix, dès le premier tour, d'être avec eux. À Metz, nous avons fait le choix d'être derrière quelqu'un de la société civile. Ben, est-ce que c'est problématique pour moi ? Pas du tout. Je considère que c'est la meilleure façon d'être utile à ce pays en faisant émerger ce bloc dans lequel doivent dialoguer des sensibilités différentes et aucune ne doit considérer qu'elle doit se substituer à toutes les autres. Nous devons être dans un échange permanent. C'est ça aussi le respect de l'altérité.
Bientôt 12h45, le premier secrétaire du Parti Socialiste est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Question politique.
Olivier Faure, que pensez-vous de cette étude d'opinion qui montre que Ségolène Royal, à gauche, est l'une des rares qui pourrait faire mieux qu'Emmanuel Macron dans les réponses de très nombreuses personnes interrogées. C'est-à-dire que à gauche, beaucoup, pour eux, Ségolène Royal représente encore la possibilité d'une incarnation, l'une des seules qui pourrait au fond faire mieux que le président de la République aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, ça veut dire que Ségolène Royal a marqué les esprits et qu'elle a été une femme d'intuition à de très nombreuses reprises sur la question environnementale, sur la question démocratique. Et donc,
bah, c'est composé un parfait. Hein. Ceux qui nous écoutent, les enfants qui travaillent leur conjugaison aujourd'hui ont remarqué que...
Elle a été
au passé, vous parlez au passé sans arrêt.
Parce que l'image que les Français conservent de Ségolène Royal, c'est cette image-là, et c'est son passé qui plaide pour elle. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'avenir. Ça veut dire que, dans le passé, elle a fait la démonstration qu'elle avait eu des intuitions, qui étaient des intuitions qui sont aujourd'hui reprises par beaucoup d'autres sur la question de la nation, sur la question... Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, effectivement, sur l'ordre
Est-ce
juste...
Est-ce que vous avez envie de la soutenir,
Françoise Fressoz?
Et donc, comme je me doute bien que la question d'après, c'est la question de l'incarnation pour l'élection présidentielle, je vais pouvoir faire une réponse qui vaut pour tous les candidats potentiels. Il y a beaucoup de candidats potentiels. C'est toujours, d'ailleurs, comme ça que les choses démarrent. Mais c'est aussi comme ça que nous nous sommes perdus. Donc, que des gens s'échauffent sur le banc de touche, très bien. Mais il faudra qu'à un moment donné, tous soient suffisamment disciplinés pour accepter l'idée que, quand viendra le moment du match, il y en a un seul ou une seule qui rentrera sur le terrain.
Comment il sera sélectionné au moment du match, celui qui aura le droit de rentrer sur le terrain ?
Ce sera celui ou celle qui sait rassembler ce bloc dont je parle depuis tout à l'heure, qui sera rassemblé.
Et c'est
à
les sondages
les écologistes,
qu'ils
les socialistes, les communistes, qui sera rassemblé, toutes celles et ceux qui veulent croire qu'il y a aujourd'hui un espace.
On le trouve
qui
comment enfin, on le sélectionne enfin,
pas tous en même temps. Pas tous en même temps. En l'occurrence, Françoise Fressoz a posé une question.
Ce sont des
très
sondages
pertinentes.
Qui vont départager ou une primaire ?
Écoutez, si je donnais la solution aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est moi
bah
qui...
Vous seriez clair et au moins on saurait à quoi s'attendre et vous pourriez vous préparer à l'étape majeure de la vie politique en France.
Si je ne suis pas clair à ce moment précis, c'est à dessein, c'est que je ne veux pas dicter aux autres une conduite. Si je le faisais...
Non, mais il y a quelque chose de très clair.
Véritablement...
Sondage, quand on interroge les gens de gauche, ils disent que Ségolène Royal est l'une des rares...
Bien sûr. Mais je l'entends.
À pouvoir faire mieux qu'Emmanuel Macron.
Et
voilà,
Ségolène Royal fait partie des atouts possibles, mais encore faut-il... Il y a un mais, c'est d'abord nous sommes encore loin de l'élection présidentielle. Le deuxième mais, c'est encore faut-il savoir ce que Ségolène Royal défendrait dans le cadre d'une élection présidentielle. Elle a quand même parfois varié et donc aujourd'hui j'entends sa sévérité à l'égard du gouvernement et donc je la rejoins dans sa critique qu'elle fait notamment de la réforme des retraites, mais ça n'a pas toujours été le cas et donc j'aimerais savoir ce qu'elle porte réellement, donc on verra à ce moment-là. Et puis parce que je ne veux pas me lier à qui que ce soit à ce stade-là, parce que je considère que ce qui nous a à chaque fois fait défaut, c'est d'avoir nourri des écuries présidentielles et au bout du compte, parce que nous avions des écuries qui s'affrontaient, nous n'avons pas réussi à faire le rassemblement. Moi, je veux le rassemblement, que nous trouvions des règles claires entre nous qui permettent évidemment d'avancer vers une candidature unique de la gauche et de l'écologie. Et à cette condition-là, je vous le dis, la victoire, elle est à nouveau possible. Et ce qui se passe au municipal, ça peut être le démarrage, la préparation d'une alternance dans ce pays.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas un candidat issu du PS, c'est-à-dire quelqu'un comme François Hollande, comme Bernard Cazeneuve, comme Ségolène Royal, même si vous considérez qu'elle a pris un peu large sur un certain nombre de choses, est-ce que c'est possible pour vous, dans votre logiciel, que ça puisse ne pas y avoir de socialiste, c'est-à-dire qu'il y ait Yannick Jadot, ou Fabien Roussel, ou je ne sais qui, ou Jean-Luc Mélenchon, et que vous soyez derrière. C'est bientôt, hein ?
Olivier Faure.
C'est bientôt.
Non, mais moi, j'ai pas d'intérêt dans l'affaire, mais...
Oui.
Mais... François Hollande avait déjà démarré à ce stade du quinquennat Sarkozy, hein.
À l'époque, tout le monde pensait que ce serait Dominique Strauss-Kahn qui serait le candidat socialiste. Donc, vous voyez que ça laisse beaucoup de surprises.
Bah, si vous arrivez un truc comme ça.
Et donc, on a toujours...
Non, mais il y a ce qui relève de l'imprévu, de la contingence du monde, Olivier Faure. Et puis, il y a des scénarios qu'on peut envisager pour se préparer à la reconquête, par exemple. Est-ce que dans les scénarios qui sont présents aujourd'hui, devant vous, vous vous dites, par exemple, que s'effacer derrière Yannick Jadot pour la prochaine présidentielle, c'est quelque chose d'envisageable, très simplement.
Bien sûr que si nous avons la possibilité de constituer...
Donc bien sûr que oui.
J'y viens. Je vais vous répondre clairement. Je veux simplement...
Je n'attends que ça.
Je ne veux pas commencer par la réponse parce que je veux que vous entendiez le raisonnement. Moi, ce que je veux, c'est constituer un bloc social, écologique, démocratique. Je crois que tout le monde l'aura compris.
Ça, c'est
clair. À partir de là, À partir de là, il faut effectivement qu'il y ait des règles du jeu entre nous, de coexistence. Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer un projet? Comment est-ce qu'on fait ensuite pour arbitrer un candidat?
D'accord.
Mais ce candidat, il sera le candidat de l'ensemble. Il ne sera pas le candidat des socialistes ou des écologistes. Il sera le candidat de ce bloc. Dès lors, quelle sera son identité? Est-ce qu'il sera issu des rangs des uns ou des autres? Et ce sera le meilleur qu'on choisira. Moi, je souhaite qu'on prenne le meilleur
ou la meilleure. Yannick Jadot pourrait être le candidat.
Toutes celles et ceux qui appartiendront à ce bloc-là,
de tous ceux qui se sont mélangés avec
le
vous,
choix, qui feront, qui porteront cette espérance commune, eh bien, seront qualifiables pour l'échéance suprême. Et donc, il n'y a pas de préalable pour qui que ce soit.
Vous-même, Olivier Faure, vous-même, Olivier Faure, vous y pensez pour vous ou pas?
Juste pour ne rentre pas là-dedans. Je viens de dire que pour tout le monde, je considère que c'est possible à une condition.
Donc, ma question, la réponse est oui.
Vous avez la déduction logique, oui.
Comme on est dans au chapitre incarnation, est-ce que si Anne Hidalgo remporte les municipales à Paris, vous pensez et vous pourriez la pousser comme une candidate à la présidentielle?
Olivier Faure.
À chaque jour suffit sa peine. D'abord, gagner l'élection municipale à Paris. Et je pense que c'est vraiment la volonté d'Anne Hidalgo. Elle l'a exprimé à plusieurs reprises. Elle a même dit qu'elle n'était pas candidate à l'élection présidentielle. Donc, ne lui faisons pas dire ce qu'elle n'a pas dit.
Mais vous, personnellement, si vous sentez qu'elle a gagné à Paris, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être la bonne candidate écologiste, sociale et démocratique?
Je ne vais pas tout à fait là non plus répondre à votre question parce que je ne veux pas l'handicaper.
Pourquoi pas?
Mais non, mais
vous voulez pas l'handicaper.
Mais Olivier Faure,
vais... l'émission
s'appelle Question politique.
Le PS est plombant.
Mais
c'est vrai qu'on
plombant.
A
pas du tout. C'est pas ça
on
la question.
On l'a pas baptisé réponse c'est que, politique.
Je ne veux pas. Non, mais comprenez que si je dis ce matin que elle serait une excellente candidate à l'élection présidentielle, ce que je peux penser en mon fort intérieur.
Oui.
Eh bien, vous aurez tout dans la dépêche qui suivra. Ce sera que on a déjà quelqu'un qui pense à Anne Hidalgo comme candidate à la présidentielle. Et dans l'élection municipale, tout le monde dira Anne Hidalgo ne veut pas être maire, elle veut être candidate à la présidentielle. Ce qui n'est pas son cas. Donc je ne veux pas la faire parler et je ne veux pas par mes propres envies décaler sa campagne.
Enfin, vous êtes le chef du parti, Olivier Faure.
Mais je suis le chef du parti, je ne suis
donc
pas...
Donc c'est de vous qu'on attend la vision et la ligne de fuite.
Je crois vous avoir donné une vision suffisamment claire, Ali Badou. Je vous ai dit que j'étais prêt à envisager toutes les incarnations possibles à la condition de constituer ce bloc-là, et je crois que ce bloc-là, il peut être majoritaire dès les prochaines régionales, dès les prochaines départementales, dès les prochaines présidentielles et législatives, et qu'il peut ouvrir une voie nouvelle. Et donc ça suppose simplement que toutes celles et ceux qui ont fait toujours, depuis toujours malheureusement... D'abord le choix de leur personne avant de faire le choix d'un projet collectif. Eh bien, si ces gens-là voulaient bien changer de logiciel et faire d'abord le choix du collectif pour pouvoir ensuite nous entraîner vers la victoire, nous aurions plus de raisons de croire à la réussite.
Ça, c'est pour Ségolène Royal.
C'est pour tout le monde, parce que franchement, c'est assez partagé.
Françoise Fressoz.
Il y a un libellé qui m'intrigue dans le bloc que vous définissez, social, écologique et démocratique. Pourquoi devoir préciser démocratique ? Il y a une question démocratique très forte en France en ce moment?
Parce qu'il y a aujourd'hui une crise démocratique, oui, bien sûr.
Alors, quand vous entendez Ségolène Royal dénoncer un régime autoritaire, est-ce que vous êtes sur cette ligne ou pas?
Olivier Faure.
Il y a des traits autoritaires dans la politique que conduit ce gouvernement. Quand on a un gouvernement qui refuse d'entendre et qui ne tient pas compte, y compris des conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a été élu président de la République. Il n'a pas été élu seulement sur son projet. J'entends bien qu'il y a des gens qui ont adhéré à son projet. Encore qu'il était très flou au moment de l'élection présidentielle.
Mais au début de l'émission, vous disiez que nous étions encore en démocratie et qu'il ne fallait pas employer des mots à tort et à travers. Et là, pour le coup, quand Françoise vous interroge sur la déclaration de Ségolène Royal qui qualifie le régime macroniste de régime autoritaire, vous semblez acquiescer. On a du mal à suivre.
Non, je n'ai pas acquiescé. J'ai dit qu'il y a des traits autoritaires dans la politique du gouvernement. Et j'essaie de vous expliquer pourquoi. Maintenant, est-ce que c'est un régime autoritaire au sens où on l'entend pour des dictatures ou des démocraties libérales, etc. L'évidence, c'est que non. On est en démocratie et la preuve, c'est qu'on pourra voter au municipal et dire non à Emmanuel Macron. On pourra le faire encore au présidentiel, on pourra le faire aux législatives, on pourra le faire à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un caractère autoritaire, qu'il n'y a pas un caractère jupitérien, il n'y a pas une façon aujourd'hui de conduire ce pays qui est effectivement une façon autoritaire. Mais ça n'est pas un régime autoritaire, c'est vrai.
Juste une petite incidence. Il y a eu 815 000 créations d'entreprises, on voit que le chômage baisse. Est-ce que tout est à jeter dans l'action de Emmanuel Macron?
Certainement pas. En fait,
mais est-ce que vous reconnaissez que entre l'impulsion sous François Hollande, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui ont commencé dans le quinquennat de François Hollande et la poursuite de cela, il y a d'un point de vue économique un mieux en France et que ça peut être porté à son crédit?
Mais moi, je suis pas, enfin, je suis pas un planificateur, je suis pas un soviétique, et je n'ai pas décidé de nationaliser l'ensemble de l'appareil de production. Donc, vous avez bien compris que je me situais dans une économie de marché et que je n'étais pas un ennemi du monde de l'entreprise.
Plutôt Jules Guedt que Jean Jaurès, on y revient toujours.
Mais je ne sais pas si vous êtes ça. Je veux savoir si
Jaurès
politiquement.
N'était pas ce que vous avez l'air de penser. C'est pas.
Non, mais je plaisante. Mais je pensais en l'occurrence à Tours 1900 et une question donc de Yaël Gauze, puisqu'il y a beaucoup de sujets sur la table et qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Nathalie Saint-Cricq.
Juste, il y a un petit mieux économiquement, vous le reconnaissez ?
Il y a des créations d'emplois dont je me félicite. Malheureusement, ce que je regrette, c'est qu'il y ait aujourd'hui une tendance qui est au creusement des inégalités et que donc ce que moi je souhaite, quel est le projet que je porte, ça n'est pas simplement de faire de l'emploi bas de gamme, c'est aussi de faire en sorte que les inégalités arrêtent de se creuser. Vous avez vu le rapport d'Oxfam, quand vous avez aujourd'hui une minorité qui détient l'essentiel du patrimoine mondial, européen et national, il y a quelque chose d'éminemment choquant. Et donc, oui, je continue à être de ceux qui croient que la politique, ça sert aussi à réduire les inégalités. Et c'est, on en revient à l'ordre naturel, c'est la loi du plus fort, et moi je suis contre la loi du plus fort. Je suis aussi pour que nous créions du droit pour chacun, et y compris pour les plus faibles.
Il reste 5 minutes, Thierry Gauze.
Il y a 5 ans, vous étiez Charlie. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, vous êtes Mila, du nom de cette jeune fille qui s'est retrouvée clouée au pilori sur les réseaux sociaux après avoir critiqué avec des mots très crus la religion musulmane ?
Olivier, oui, bien sûr, je suis Mila. Je défends le fait que dans notre République, on ait le droit, y compris d'avoir des mots crus, des mots durs sur une religion. La limite, c'est de ne pas insulter ceux qui croient et de pas être dans la stigmatisation de tel ou tel les musulmans, les juifs, les catholiques, etc.
Pourquoi tant de temps avant de réagir ? C'était très très lent. L'affaire a éclaté il y a plus de 10 jours maintenant. Pourquoi une réaction si tardive ?
Mais à chaque fois que j'ai été interrogé, j'ai fait la même réponse. Après, on a cherché plutôt à expliquer que la gauche était en retard sur ce sujet. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la gauche était en retard sur ce sujet.
Et est-ce qu'elle est divisée sur ce sujet, à votre sens ?
Elle est malheureusement parfois divisée sur ce sujet, oui. Et c'est la raison pour laquelle, le 10 novembre dernier, vous vous souvenez, j'avais refusé de participer à une manifestation à laquelle beaucoup d'autres avaient appelé.
Contre l'islamophobie.
Parce que je ne me reconnaissais pas dans l'appel qui avait été lancé et qui était un appel qui confondait un certain nombre de points de vue. Et il y avait des gens qui se battent contre des lois qu'ils considèrent comme islamophobes et qui font référence par rapport, par exemple, à la loi 2005 sur le voile à l'école. Et moi, je considère que le bloc laïque doit être défendu intégralement.
Est-ce que ce type de fracture n'est pas en train de justement émietter la gauche de façon assez importante ? Est-ce que vous lancez un cri d'alarme en disant attention ?
Olivier Faure.
Bien sûr, attention, mais je n'ai pas le sentiment que ça émiette la gauche. J'ai même le sentiment que, à partir du moment où nous reprenons, nous, des positions claires, que nous n'avons pas toujours eues,
Des errements ?
Des errements, et donc...
Des accommodements avec la laïcité ?
Sans doute. Et donc, il faut en finir avec tout accommodement avec la laïcité. Et donc, je pense que si nous arrivons à être à nouveau une référence sur ce sujet-là, à expliquer ce en quoi nous pouvons, par la laïcité, vivre ensemble, eh bien, je crois que nous pouvons aussi tirer à nouveau la gauche de ce côté-là et ne pas la laisser parfois dériver sur des approches qui sont coupables.
Est-ce que ça doit être un pilier, Nathalie, ou un marqueur absolument indépassable, la laïcité ? Et vous savez très bien que ça peut poser des problèmes avec un certain nombre de personnes du pôle de gauche que vous voulez constituer. Là-dessus, vous serez intraitable ?
Oui, je serai intraitable. Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité en France que d'être un républicain et un laïc. Et que nous devons avoir le même traitement avec les musulmans que celui que nous avons avec les catholiques ou avec les juifs. La même règle vaut pour tous. Et il n'y a pas à confondre telle ou telle religion avec le prolétariat. Ça n'est pas la même chose. Et donc, il y a un combat social qu'il faut mener. Je l'ai dit assez longuement dans cette émission. Et il y a un combat aussi qui est le combat pour la liberté de penser, pour la liberté d'expression. Et nous devons être extrêmement clairs sur ce sujet-là et ne jamais nous renier.
Revenons pour finir à la BD Angoulême. Vous y étiez jeudi. Est-ce que vous auriez porté arboré, en tout cas comme Emmanuel Macron, le t-shirt polémique du dessinateur Jules, sur lequel on voyait la mascotte du festival avec un œil crevé par une balle de LBD.
LBD 2020.
Est-ce que vous auriez arboré de la même manière que le président l'a fait pour défendre la liberté d'expression ?
Je l'aurais fait sans sourire. pas comme le président, donc. Parce que ça n'est pas drôle. Ça n'est pas une histoire qu'on se raconte simplement dans les bandes dessinées. C'est une histoire réelle. Et quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des lycéens, qui occupent des lycées et qui se font tirer dessus avec des LBD, je me dis que effectivement, il y a quelque chose de grave dans le Royaume de France. Et que la moindre des choses serait que aujourd'hui le pouvoir révise sa doctrine de maintien de l'ordre.
L'émission se termine. Merci Olivier Faure d'avoir été notre invité. Bon dimanche. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Merci à tous les trois. Rendez-vous la semaine prochaine.